Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèles à notre émission quotidienne de la Voix de l'Indonésie en langue française. Je m'appelle Yubi Suryanto et on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, samedi, il est 3h du matin du temps à Jakarta. Ces auditeurs et auditrices, ce soir le programme commencera par les journaux, suivi la revue de presse, aujourd'hui dans l'histoire, la mise au point. Et puis on vous présente le rappel de l'actualité. Et bien, on vous propose la rubrique hebdomadaire qui sera cette semaine sur le magazine culturel suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre émission, la rubrique distraction, c'est-à-dire le magazine musical indonésienne. Je laisse la parole à mon ami qui va vous présenter le bulletin d'information.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Assemblée consultative du peuple a demandé au gouvernement indonésien d'arrêter la planification de déménagement de la capitale. Le Parlement approuve le président et les membres de l'autorité des services financiers de l'Indonésie. L'Indonésie et l'Australie ont lancé un nouveau partenariat. La police indonésienne est prête à sécuriser la réunion mondiale des ulémas tenue à Padang. Et les entreprises Indonésie-Turquie ont convenu l'accord d'investissement d'une valeur de 520 millions de dollars américains. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le président indonésien Joko Widodo a le projet de déplacer la capitale de Jakarta dans une autre province en Indonésie pour optimiser la gouvernance à l'avenir, parce que Jakarta et plein de toutes sortes d'activités. Cependant, le gouvernement veut impliquer des secteurs privés si la planification peut être faite avec succès. En réponse à ce projet, le président de l'Assemblée consultative du peuple, M. Zulkifli Hasan, a déclaré vendredi au Parlement Jakarta qu'il vaut mieux que le gouvernement n'implique pas des secteurs privés si ce projet est réalisé, car il peut apporter un nouveau problème.
Kalau ibu kota pindah swasta, malah skandal nanti, ya kan?
Si la capitale se déplace en impliquant des secteurs privés, ce sera un scandale. Le public demandera-t-il. Si la capitale se déplace, c'est le devoir du gouvernement parce que le gouvernement central est déménagé aussi. Si les secteurs privés déplacent la capitale, comment? Le gouvernement central est déplacé par le secteur privé. Je suis d'accord si la capitale doit être séparée, mais ce n'est pas maintenant. Zulkifli Hasan a demandé au gouvernement de se concentrer sur la performance parce que la dette indonésienne au pays étranger est grande. Même selon lui, il existe de nombreux programmes du gouvernement qui ne sont pas encore achevés, comme les constructions de l'autoroute dans les îles de Java et Sumatra, la construction d'irrigation, etc. En 2018 devient une année politique pour préparer la fixation des candidats présidentiels et vice-présidents aux élections générales 2019. Zulkifli espère que le gouvernement peut finir ses programmes de travail par rapport au déménagement de la capitale de Jakarta vers une autre province. La session plénière du Parlement indonésien a approuvé récemment à Jakarta 7 noms pour le président et les membres de l'autorité de services financiers ou OJK de l'Indonésie. Le vice-président du Parlement, M. Taufik Kurniawan, a approuvé les noms après avoir obtenu l'approbation du membre de la session plénière. Dans son rapport, le vice-président de la Commission 11 du Parlement, M. Supriyatno, a transmis le résultat d'un test de compétences et d'honorabilité mené par la Commission. Selon lui, les tests ont été effectués à partir du 5 juin dernier. Il y avait 14 participants à l'examen avant que la Commission ait eu 7 noms pour le président et les membres de l'autorité du service financier indonésien pour la période
2017-2022.
Les membres de l'autorité indonésienne du service financier pour la période 2017-2022, à savoir Wimbo Santoso en tant que président, Nur Haida Tirtasegara, Rizwinandi, Heru Kristiana, Hussein et Ahmad Hidayat en tant que membres. Le résultat du test de compétence et d'honorabilité de l'autorité indonésienne du service financier pour la période 2017-2022 sera signalé au président pour l'inauguration. La rencontre bilatérale entre le président Joko Widodo et le premier ministre australien Malcolm Turnbull introduit un nouveau forum de partenariat, à savoir le partenariat stratégique global Indonésie-Australie. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, après avoir accompagné le président Joko Widodo au cours d'une réunion bilatérale à l'hôtel Stettenberger, Hambourg, l'Allemagne, vendredi, a déclaré que ce serait le nouveau partenariat qui serait lancé l'année prochaine par les deux pays. Selon la ministre Retno Marsudi, le partenariat stratégique global Indonésie-Australie vise à montrer la proximité et aussi les relations plus étroites entre les deux pays après l'accord de partenariat économique global entre l'Indonésie et l'Australie, ou IACPA, auparavant. Le partenariat stratégique complète Indonésie-Australie est plus large, entre autres l'éducation, la culture, la politique et d'autres mécanismes plus largement. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le chef de police régionale de Sumatra-Ouest, l'inspecteur général Fahrizal, assure qu'il est prêt à sécuriser la réunion des ulémas en Asie du Sud-Est, en Europe et en Afrique, tenue dans la ville de Padang du 10 au 21 juillet 2017. Le chef de police régionale de Sumatra-Ouest, lors d'accueillir le maire de Padang, Mahyildi Ansarullah Marajo, et sa suite l'a affirmé comme une forme de soutien plein au gouvernement de Padang. À cette occasion, le maire de Padang espère que le soutien plein de la police lié à la sécurité de cette réunion. L'activité vise à unir les musulmans dans tout le monde. Plus tard, il y aura un représentant des ulémas de nombreux pays qui attendra 400 personnes. Dans cette réunion, les participants discuteront diverses questions et problèmes concernant les musulmans, comme la solution au conflit du Moyen-Orient, y compris le discours de haine qui détruit les relations en Indonésie. L'Indonésie et la Turquie ont signé un accord d'investissement d'une valeur de 6,7 trillions, ou environ 520 millions de dollars américains, au cours de la visite du président Joko Widodo à Ankara, en Turquie, cette semaine. Le chef du Conseil de coordination des investissements, M. Thomas Lembong, a déclaré que cette somme était obtenue de la signature du protocole d'accord entre PT PAL et Karadeniz Holding, une entreprise turque engagée dans l'énergie et les navires de production d'électricité d'une valeur de 320 millions de dollars américains, et un accord de PT Dirgantara Indonesia avec l'industrie aérospatiale turque de 200 millions de dollars américains. Selon Thomas Lembong, BKPM a soutenu la coopération d'investissement des entreprises de ces deux pays. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Chers amis, nous continuons notre émission avec la revue de presse. Nous commençons avec l'éditorial du journal Média Indonésia le 5 juillet intitulé « Glorifier l'agriculture. Il y avait quelque chose de différent dans la période de Ramadan et de l'Aïd récemment. Les prix alimentaires sont relativement stables. Au moins, il n'y avait pas d'une hausse de prix qui font les consommateurs de ménage à perte. En fait, les marchés traditionnels étaient toujours remplis de clients. Cette fois, une grande demande des consommateurs ne fait pas nécessairement les prix alimentaires augmenter. L'approvisionnement en nourriture était suffisant. La condition presque idéale ne peut pas se réaliser si la manipulation des denrées alimentaires a été effectuée comme d'habitude. Le crime de mafia commerciale des denrées alimentaires, qui est souvent cité comme le coupable de l'augmentation des prix, n'était pas visible maintenant. Les paysans jouissaient d'une augmentation de l'excédent des recettes. D'après les données de l'Agence centrale des statistiques, la valeur du revenu est supérieure à la dépense des ménages agricoles. Les prix alimentaires payés par les consommateurs sont relativement stables, alors que les agriculteurs peuvent réaliser plus de profits. Il indique l'efficacité de la chaîne de distribution et pas la faiblesse de la consommation. On doit savoir comment faire la stabilité des prix dans la période de la fête comme une nouvelle tendance. La clé reste dans l'approvisionnement et la distribution. The Economist Intelligence Unit, l'année dernière, a mis les indices de durabilité alimentaire d'Indonésie à la classe 21 et le seul pays d'Asie du Sud-Est qui se trouve dans un groupe de grands 25. L'un des pousseurs et des ressources en eau abondante est la productivité des terres. Avec les conditions actuelles, l'Indonésie a suffisamment de capital pour fournir la nourriture pour le peuple. Ensuite, l'éditorial du journal Sindo, le 6 juillet, a pour titre la réglementation du travail. La présence de la technologie numérique a donné naissance à l'économie numérique qui facilite la structure de l'économie. Diverses formes de nouvelles entreprises émergent et produisent un certain nombre de nouveaux emplois. En conséquence, les réglementations liées à l'emploi doivent également suivre les temps qui changent si vite. Bien que le travail soit une économie numérique virtuelle, il doit y avoir des règles claires et fermes pour éviter les conflits sociaux qui ne sont pas attendus. Par conséquent, la réglementation du travail liée à l'économie numérique nécessite et les droits des travailleurs et des employeurs. La forme de charge ponctuelle et les relations de travail, les compétences, la santé et la sécurité, égalité des salaires, la sécurité sociale et de protection du travail. Selon le journal Sindo, l'objectif du gouvernement de faire l'Indonésie centre de l'économie numérique en Asie du Sud-Est peut sembler ambitieux. Cependant, le peuple d'Indonésie est fortement orienté vers le numérique. Selon les données de l'Association des fournisseurs de services Internet indonésiens, les utilisateurs d'Internet en Indonésie ont atteint 52% de la population totale et ont accès à Internet mobile et 4 heures par jour. Un autre développement qui rend le gouvernement plus optimiste quant à l'existence de l'économie numérique et la croissance rapide des applications commerciales. Nous terminons la revue de presse avec l'éditorial du journal Business Indonesia le 6 juillet, ayant pour titre « La complexité du transfert de la capitale d'État ». Les derniers jours, il y a la polémique sur le plan de redéploiement de la capitale de l'Indonésie de Jakarta à l'autre ville hors de Java. Si ce plan est une réalité politique, Jakarta sera seulement centre d'affaires et centre financier. Le déplacement de la capitale et le centre de l'administration publique est souhaitable d'encourager la formation d'un nouveau centre de la croissance économique de sorte que les fruits du développement soient plus équitablement répartis et les disparités économiques entre Java et en dehors de Java peuvent être érodées. Toutefois, le plan du gouvernement ne sera pas nécessairement obtenir une réponse positive du public. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas officiellement décidé quelle région ou de la ville serait candidat de la capitale d'État. Certes, son emplacement est en dehors de Java. Ce n'est pas pour la première fois que Palangkaraya est candidaté pour la nouvelle capitale. À l'époque du président Sukarno, le désir de déplacer la capitale vers Palangkaraya était le discours, même si elle n'était pas réalisée. Avec toute la complexité des problèmes qui existent, tout espoir que le gouvernement ne se précipite pas de réaliser son plan. Selon Business Indonesia, l'Indonésie exige actuellement une énorme énergie et indivisibilité de tous les éléments de la nation pour reconstruire le pays. Cher ami, c'était la revue de presse.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Ces auditeurs du teaser, écoutons l'histoire d'aujourd'hui ce soir, l'édition le 8 juillet, entre autres le 8 juillet 1940, l'aéroport international Kemayoran a officiellement ouvert. Et puis, 8 juillet 1976, le premier satellite indonésien, Palapa A1, est lancé au Kennedy Space Center aux États-Unis. La dernière, le 8 juillet 1945, la haute école islamique a été fondée à Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui complète. On commence le 8 juillet 1940, l'aéroport international Kemayoran a officiellement ouvert. L'aéroport international Kemayoran est le premier aéroport en Indonésie qui a été ouvert pour les vols internationaux. La piste a été construite en 1934. Cependant, la date d'engraissement en figure 6 juillet 1940. L'aéroport a fonctionné première fois avec le premier avion qui a atterri de type DC-3 Dakota appartenant à la compagnie aérienne néerlandaise des Indes orientales qui a été effectuée à partir de l'aérodrome Cililitan, maintenant Halim Perdana Kusuma. L'aéroport Kemayoran avec la côte KMO a commencé ses opérations officiellement cessées le 1er juin 1984. L'arrêt d'activité de l'aéroport Kemayoran dû aux compagnies aériennes nationales et étrangères de plus en plus trépidantes à Jakarta. Et la zone de l'aéroport Kemayoran dans le centre-ville qui est considérée comme pas optimale en termes de sécurité. Le gouvernement a alors mis en place un nouvel aéroport dans le banlieue Sukarno et beaucoup plus large. On continue le 8 juillet 1976, le premier satellite indonésien Palapa A1 est lancé au Kennedy Space Center aux États-Unis. Satellite Palapa A1 est un premier satellite qui est possédé par l'Indonésie et opéré par l'entreprise d'État de la communication indonésienne Promtel. Avec le fusée Delta 2914, il est opéré depuis 9 juillet 1966 jusqu'en 1983. Ce satellite constitue le programme première fois depuis 1975. Le nom Palapa lui-même est choisi par l'ancien président Suharto. Une nouvelle génération de satellites Palapa concourt et construit spécifiquement pour être en mesure de concentrer la puissance du signal à travers l'archipel indonésien. En particulier, les îles principales et les pays voisins comme Malaisie, les Philippines, Singapour et Thaïlande. Nous terminons le 8 juillet 1945, la haute école islamique a été fondée à Jakarta. L'université islamique a été créée le 8 juillet 1945 sous le nom l'École supérieure de l'islam ou STI à Jakarta. STI est le noble idéal des chiffres nationaux indonésiens qui regarde le fait que lorsque l'enseignement supérieur et qu'il y a une high school néerlandaise technique ou l'Institut de technologie de Bandung. STI est né pour être la preuve d'une conscience éduquée dans la communauté autochtone. Initié par des personnalités nationales telles que le Dr Muhammad Hatta, Muhammad Nasir, le professeur Muzakir Muhammad Rum, Wahid Hassim et le 10 avril 1946, le président Sukarno change le nom de STI, devient l'Université islamique de l'Indonésie. C'est ce d'autorité, c'était notre programme aujourd'hui dans l'histoire, l'édition 8 juillet. À demain.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis, nous continuons notre émission avec la mise au point et un petit titre. Indonésie et Turquie ont accordé le partenariat économique global. L'Indonésie et la Turquie ont convenu de lancer la négociation sur un accord de partenariat économique global ou Indonesia-Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement, ITCEPA. Le lancement de la négociation ITCEPA est réalisé au cours de la rencontre entre le président Joko Widodo et le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, au palais présidentiel de Turquie, Beyaz Saray, à la périphérie de la ville Ankara, jeudi, comme rapporté l'agence de presse Antara. Dans une annonce de presse ensemble avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, à la ville Ankara le jeudi, le président Joko Widodo a déclaré que l'Indonésie et la Turquie ont convenu de chercher à rétablir la tendance positive dans le commerce et l'investissement, notamment dans le cadre des négociations ITCEPA. Le président Joko Widodo a également déclaré que les deux pays ont accepté de réduire les obstacles au commerce entre les deux pays pour créer un climat d'investissement favorable. L'Indonésie encourage également les investissements turcs, notamment dans le domaine maritime, les infrastructures et l'énergie. Outre le partenariat ITCEPA, les deux pays ont également convenu de la coopération dans le domaine de la santé. Les représentants du gouvernement qui ont signé le document et la ministre des Affaires étrangères, Retno LP Marsudi, pour la coopération dans le domaine de la santé, et le ministre du Commerce, Enggar Tias Tolukita, a signé l'accord de partenariat économique global entre l'Indonésie et la Turquie, ITCEPA, respectivement avec le gouvernement de la Turquie. La signature des deux documents a été témoignée par les deux chefs d'État. Le président Recep Tayyip Erdogan a affirmé qu'il va se coopérer avec l'Indonésie dans de divers domaines. De plus, après avoir visité la Turquie, le président Joko Widodo va continuer son voyage à la réunion des dirigeants du groupe 20 pays, soit G20, à Hambourg, en Allemagne. Le président Erdogan considère plus important pour la Turquie et l'Indonésie de coopérer dans divers secteurs. Les deux chefs d'État ont également convenu de coopérer dans les champs d'information, de l'intelligence, dans un effort pour combattre et vaincre des combattants ou des terroristes étrangers. À ce propos, les deux pays ont convenu de construire un système de technologie de l'information dans le domaine de l'intelligence. Selon le président Joko Widodo, le développement du système informatique dans le domaine de l'intelligence facilite les deux pays de coopérer afin de lutter contre le terrorisme. Le président Erdogan a déclaré que la question du terrorisme n'était plus un problème local. Le président Joko Widodo a mis fin sa visite d'État en Turquie jeudi soir pour continuer son voyage à Hambourg, en Allemagne, pour assister au sommet du G20. Chers amis, c'était la mise au point.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers auditeurs. Merci à vous d'écouter notre antenne La Voix de l'Indonésie. Dans l'édition du magazine culturel d'aujourd'hui, nous vous présentons un artisanat de Yogyakarta. Alors, soyez toujours avec nous, La Voix de l'Indonésie, le service international de RRI. Outre les zones courtes, vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voe.ce.id. Chers auditeurs, si vous entendez le mot Indonésie, l'une des choses dans votre esprit est le batik qui est généralement appliqué sur le tissu. Mais savez-vous, il y a aussi batik qui est appliqué sur le bois. S'il vous plaît, visitez le village de Krebet qui est connu comme le village touristique de batik avec le bois comme média de l'objet de la peinture. Tous les produits d'artisanat de batik en bois sont faits manuellement, sans l'impression ou un autre outil. Certes, il a besoin des compétences de grande classe. Les motifs qui sont souvent utilisés sont entre autres les motifs Kaung, Garuda, Sido Rahayu, Sido Mukti, Parang Rusak, Parang Barong et d'autres motifs. Chers auditeurs, pour faire l'artisanat de batik en bois, généralement, l'artisan utilise le bois Albizia sinensis, poulet et le teck. Chaque bois étant choisi est basé sur l'excellence et le choix est adapté aux besoins. Le processus de la fabrication de batik en bois est commencé par le choix du bois sec. Ensuite, le bois est sculpté sur la base du motif ou de la forme qui veut être fait. Une fois la sculpture effectuée, le demi-produit est poncé. Ensuite, il est peint avec la couleur de batik. Le produit de l'artisanat de batik en bois qui est bien connu est le max en bois. D'autres produits d'artisanat sont les marionnettes, la boîte, la statue, le cadre de photo et d'autres souvenirs. Chers auditeurs, le village touristique de batik en bois offre divers forfaits touristiques. L'un d'eux est un cours pour faire le batik en bois où les touristes peuvent voir directement le processus de fabrication du batik en bois des artisans et ils font aussi son propre artisanat du batik en bois. Il y a aussi le cours d'art pour apprendre l'art traditionnel comme karawitan et la danse traditionnelle. Ce forfait comprend le tour de l'industrie à domicile du batik en bois de Krebet et le trekking de la colline de Pajangan et la cascade de Jurang Pulosari. Si vous n'êtes pas encore satisfait à la découverte du village Krebet en Nangzur, ne soyez pas inquiet. Vous pouvez rester à certaines maisons d'habitants qui ont une architecture traditionnelle javanaise. Le village touristique Rebet est situé sur la colline Pajangan, la résidence Bantul, à environ 15 km de Yogyakarta. Le voyage à ce village peut être accessible en utilisant le transport terrestre. Voulez-vous sentir la sensation de faire du batik avec le média de bois? Ne pas oublier d'entrer le village Krebet dans votre agenda touristique lorsque vous êtes à Yogyakarta. Chères auditrices et chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « Le batik en bois du village Krebet ». Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleurs et en petit titre Tour de Flores 2017. Flores est l'une des plus grandes îles en province Nusa Tenggara avec une superficie de 14 300 km² et une population de 2,2 millions en 2014. Cette île a une belle nature avec une rangée de montagnes volcaniques et les zones côtières avec les récifs coralliens et le parc marin. La communauté Flores a une variété de la culture locale et l'artisanat du tissage ikat célèbre. Avec tout ce potentiel, il n'est pas étonnant si beaucoup de touristes visitent cette île. Pour stimuler les arrivées de touristes à l'île Flores, le gouvernement local continue de tenir en large éventail d'activités touristiques. L'un est le Tour de Flores 2. Tour de Flores présente un événement de course de vélo au niveau international, en vertu du règlement de l'Union cycliste internationale. La course de vélo est un des moyens pour soulever le tourisme Flores sur la scène mondiale. Le Tour de Flores comme événement touristique a été inspiré par des événements similaires comme le Tour de France depuis 1903, le Tour de Singkarak depuis 2009 et le Tour de Banyuwangi Ijen depuis 2012. L'événement sportif qui a énorme impact touristique. L'événement qui est tenu le 10 à 21 juillet 2017 est le deuxième Tour de Flores. Le Tour de Flores est tenu pour la première fois en 2016. Le Tour de Flores cette année prend une distance de 721,5 km étant divisé en 6 étapes à partir de l'Arantuka à Flores Est, Passé, Momere, Ende, Mbai, Nagekeo, Borong, Ruteng jusqu'à Labuan Bajo à Manggarai West. Le Tour de Flores 2017 comprend activités pré-événements comme la visite à la destination touristique Kelimutu, Tour de Flores comme l'événement principal avec touring et fan bike comme un événement de soutien et activités post-événements comme les visites à Komodo et Pink Beach. Le 5 juillet dernier, le Tour de Flores était officiellement ouvert. Cet événement était assisté par le ministre du Tourisme Arif Yahya et le directeur du Bureau du Tourisme de Nusa Tenggara Est, au bâtiment Sapta Pesona. Cette année, le Tour de Flores prend 20 équipes pour profiter de la nature de Nusa Tenggara Est. Il y a 16 équipes de touristes étrangers de la Grande-Bretagne, l'Union européenne, l'Afrique, le Japon, la Corée du Sud, la Chine, l'Australie, la Thaïlande et la Malaisie, et 4 équipes nationales. Pour l'aviation, il y a un vol direct de Jakarta à Kupang tous les jours. Pour l'hébergement, il y a des hôtels et des maisons chez l'habitant. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Ces auditeurs, la voix de l'Indonésie, on rencontre dans le programme La couleur musicale indonésienne. Ce soir, on écoute les chansons de Dipa Barus. On écoute une première chanson de Dipa Barus suivante intitulée No One Can Stop Us.
No one can stop us. No one can stop us.
Ces auditeurs, c'était la première chanson intitulée No One Can Stop Us de Deepa Barus ensemble avec Kalula. Deepa Barus était un disc jockey de l'Indonésie qui est également connu en tant que compositeur et producteur du genre de la musique électronique dance music. Deepa a le nom complet Aditya Krishna Deepa Barus. Il est né à Jakarta le 4 janvier 1986. L'entrée de Deepa Barus au monde de la musique commençait à l'école primaire. À cette époque, Deepa Barus, qui était 6 ans à ce moment-là, a appris à jouer l'instrument de basse. Depuis lors, Deepa Barus continue à explorer un large éventail de connaissances sur la musique. Jusqu'à ce finalement, Deepa Barus a su avec le monde du disc jockey quand son père et lui sont allés à Singapour. À son retour de Singapour, Deepa Barus a continué à apprendre à être un disc jockey. Deepa Barus a fait une embardée dans le monde du design graphique parce que le père ne venait pas pour étudier la musique au collège. Deepa Barus est allé au collège et a travaillé dans le domaine de la conception graphique en Malaisie. Cependant, en 2008, Deepa Barus a choisi de revenir à Jakarta pour suivre la musique qu'il aime. C'est ça, bien, avant de tourner donc plus loin de Deepa Barus, on écoute sa chanson suivante intitulée Let Me Get That.
Down, 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 down
Ses amis, c'était une chanson Les Megadeth qui est le résultat de la collaboration de Deepa Barus avec Rini Ulandari, Teza Sumendra. En tant que disc jockey, Deepa Barus est souvent collaboré avec des musiciens et des chanteurs indonésiens comme Andine, Titi DJ, Bunga Citra Lestari, Bayu Risa et d'autres. Être un disc jockey n'est pas facile pour Deepa Barus. Il devrait continuer à expérimenter avec des sons différents, la musique et des instruments afin de créer de nouvelles œuvres sont plus intéressantes. Une fois, Deepa Barus a également eu le temps d'explorer la musique traditionnelle indonésienne telle que gamelan, gong, reok, trompette et sasando. Tout ce qui combinait avec des trans instruments modernes dans ses œuvres, l'un d'entre eux dans sa chanson intitulée No One Can Stop Us. Tout son effort est réussi jusqu'à ce qu'il a été nommé comme meilleur DJ de l'année 2014. Et meilleur électro-DJ est de l'année 2013. Cependant, Deepa Barus reste humble et choisit un mode de vie simple. Bien qu'il vit dans le monde de la nuit qui est identique avec d'alcool, des drogues et d'autres, mais Deepa Barus n'est pas tombé dans ces choses. Deepa Barus aime de faire la méditation. Son attitude pour opposition au monde ce soir-là l'avait fait étiqueter comme DJ Sharia par certains médias et amateurs de musique électronique. Lorsque sur la chaîne, Deepa Barus introduit également son travail dans la chaîne YouTube. Sur YouTube, les téléspectateurs de la vidéo ont été surpris parce qu'ils pensent que la chanson qu'ils ont entendue était le travail de ses disc jockeys internationaux, Alan Walker et Marshmello. Et les amateurs de musique électronique de danse certainement pas surpris pour le fait que Deepa Barus était une classe internationale de disc jockey. Ses auditeurs, c'était le programme du magazine musique indonésien avec Deepa Barus en disc jockey indonésien. Avant de terminer notre programme, on va écouter une dernière chanson de Deepa Barus collaborée avec Nadine, intitulée All Good. Bonne écoute et au revoir.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Kesan bulu mereka terbawa dalam rasa.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id. Ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.